France Musique.
Musique et moi.
Denis Podalydès.
Priscille Lafitte, France Musique.
Pendant que je roulais avec le corps de mon frère, en train de se décomposer légèrement, tous deux trimballés sur l'autoroute, j'écoutais l'Incarnatus Est de la plus belle des messes de Haydn. Ce petit bout de musique chantée prétendait opérer en quelques minutes un miracle. Et homo factus est. Un homme, une femme, un être humain prend corps devant nous. Et par paliers, ça s'incarne, c'est fait. Ça n'arrête pas de naître. Des fleurs s'ouvrent en accéléré. La peau se construit et les yeux s'ouvrent. Ça se fabrique sous nos yeux. Ça donne des forces. Il faut au moins trois voix entrelacées pour réussir ce prodige. Surenchérir dans l'aigu. Attaquer à l'ultra-bas sur le flanc gauche. Revenir au centre pour se frayer un nouveau chemin inédit. On dirait que la musique cherche une issue, comme l'eau qui s'insinue dans la moindre fente et profite de déclivités minuscules pour se transformer en petit torrent. À force d'exploration, elle touche successivement des points comme on le fait avec un corps que l'on soigne en le perçant d'aiguilles. On dirait qu'une zone a été isolée par les notes qui précèdent, comme si vous exploriez l'ensemble d'un être en réservant un endroit. Cette zone finira par crier pour qu'on la touche. Ici. Encore. Quelle obstination. La musique nous prend par la main. Elle exécute son programme les yeux fermés. Elle, au moins, connaît sa fin. Elle s'accorde parfaitement avec le paysage déroulé par la vitre. Elle sait que ça marche toujours. C'est son métier. La nuit, avec un peu d'entraînement, je peux me glisser dans cette scène sans trop d'efforts. J'y reviens à volonté. Je peux même emprunter mon corps d'avant. Il suffit de quelques points d'appui, le contact du bois du cercueil, la chaleur extrême par la vitre abaissée, la chemise blanche aux manches relevées, les deux hommes en noir silencieux à l'avant, et cette musique en boucle. Et homo factus est. Un homme, une femme, un être humain prend corps devant nous. Et par paliers, ça s'incarne, ça se compose, c'est fait. Ça naît. C'est le monde à l'envers, ça n'arrête pas de naître, des fleurs s'ouvrent en accéléré, la peau se construit et les yeux s'ouvrent. Ça recommence. Mais, déception, à la fin du morceau, notre enfant est déjà mort. Et passus, et passus. Ça y est, en un clin d'œil, le voilà déjà disparu. Fabriqué si vite et passé en 5 minutes, il faut réécouter ça du début.
Spirito Santo.
Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique ce matin.
Merci.
Vous êtes acteur, notamment à la Comédie Française, metteur en scène, écrivain, lecteur. Les mots sont votre pain quotidien, vous nourrissez de textes et ce qui nous intéresse plus spécifiquement ce matin, c'est votre rapport à la musicalité des mots, à la rythmique de la langue, votre rapport à l'opéra, au chant, à la voix. Et pour commencer cet autoportrait musical, vous avez apporté un texte, et quel texte ? Un texte tout neuf qui vient de paraître il y a 3 jours seulement. Ce sont les premières pages du dernier roman d'Olivier Cadiot, Médecine Générale, publié chez POL. Merci pour cette lecture, Denis Podalydès. C'est un texte qui parle d'incarnation par le chant, d'incarnation par l'écoute aussi. Nous avons donc entendu à la suite la messe de Sainte-Cécile de Joseph Haydn, dont parle justement Olivier Cadiot dans ce texte, Et incarnatus est, avec les solistes Markus Schaffer, Harry von der Kamp, Marianne Beate Kieland, Lydia Teuscher, aux côtés de l'ensemble Anima Eterna de Jos von Immersel. Ce texte d'Olivier Cadiot, décrivant une procession d'enterrement s'inscrit dans cette messe d'Haydn tout en jouant sur le décalage des situations. Ça pourrait inspirer une mise en scène de cette messe.
Les textes de Cadio, immédiatement quelque chose pour moi de fulgurant. J'ai reçu ce roman, Olivier, que je connais bien, qui est un ami, me l'a adressé. Et comme à chaque fois que je reçois un texte de lui, j'éprouve, c'est une décharge électrique. Dans le langage, dans l'imagination, j'entends tout de suite, je vois. Là, je vois, j'ai transposé ça immédiatement. Mais c'est à travers les mots. J'ai même pas idée d'en faire un film, par exemple, où il y a quelqu'un d'autre qui en fait très bien du théâtre, c'est Ludovic Lagarde et Laurent Poitrenaud qui ont inventé un théâtre particulier dans l'œuvre de Cadio et dans le paysage théâtral lui-même, qui est tellement sublime que moi je n'y penserais même pas. Non, là c'est mon, quand je suis lecteur, je suis à la fois metteur en scène, cinéaste, et j'ai des moyens de production gigantesques, donc je me fais dérouler un immense film, et donc je vois une sorte de fourgon mortuaire rouler très vite dans la campagne avec des vitres fumées, des croque-morts silencieux, et lui qui est contre le cercueil d'un demi-frère, c'est comme ça que commence le livre, et il y a cette interrogation sur l'incarnation. Alors je mélange l'incarnation de l'acteur aussi, le goût de la musique, la musicalité des mots. Enfin, tout ça fait une sorte, j'ai même peine à faire le tri là-dedans, tout ça crée une combustion, une fraîcheur et une exaltation, et j'ai toute la gaieté, l'ironie, l'esprit, l'intelligence et la poésie, le sens littéraire d'Olivier Cadio qui m'éclate dans le crâne, mais d'une façon que j'adore, c'est pas du tout douloureux, ça me met en joie, voilà. Donc je me suis dit, commençons cette émission-là avec cette joie-là.
Quelle voix est-ce que vous recherchez lorsque vous abordez cette lecture, comme vous l'avez fait à l'instant?
Oh là, j'ai un peu une voix du matin qui a mangé un morceau de galette. Donc j'ai, en même temps que je lisais, je me disais ça mériterait une deuxième prise, voire une troisième. Je déchiffre en fait mon seul effort, généralement d'ailleurs, c'est l'effort capital pour moi la lecture, c'est rendre les choses intelligibles sans les mâcher, sans les interpréter trop, sans les mâcher, c'est peut-être voilà, je dois donner à entendre et à la fois donner la clarté et du texte et son mystère. C'est pas si simple, mais donc ça demande une certaine distance et une concentration sur la syntaxe. C'est pas la peine de vibrer intérieurement sur chaque mot qu'on dit. Voilà, c'est surtout avec Cadio, c'est quelque chose qui va droit comme une flèche.
Patrice Chéreau disait qu'il n'aime travailler qu'avec des comédiens qui ont une musicalité de la langue. Je crois qu'on va en reparler tout au long de cette émission. On va commencer cette émission, la poursuivre, avec Jean-Baptiste Lully, Attis, Dormons, dormons tous. Nous voici avec Attis de Lully dans la version des Arts florissants de William Christie, ici l'air du sommeil, par le ténor Gilles Ragon, qui a fait souffler sur l'opéra comique en 1987 un air frais, nouveau, celui de l'opéra baroque, qui retrouvait des couleurs, des gestes, bref, qui trouvait une mise en scène. Oui. Jean-Marie Vélégier était aux manettes de cette mise en scène. En 1987, vous alors, Denis Podalydès, vous êtes étudiant en théâtre,
oui,
au cours Florent. Est-ce que vous étiez au parfum?
Conservatoire même déjà,
en 1987,
oui.
Est-ce que vous étiez au parfum de cette révolution baroque?
Très peu. C'est une musique que je connaissais très mal. En revanche, j'ai vu au théâtre des spectacles de Jean-Marie Vélégier qui m'ont absolument ébloui. Il y avait chez lui, parce que je dis il y avait, car ma connaissance n'a pas eu de mise en scène récente, une façon de redécouvrir ce théâtre qui était en fait une vraie découverte assez révolutionnaire. Il n'était pas d'abord dans cette espèce de dilemme, faut-il actualiser ou non, transposer ou non. Non, il allait dans, mais parce que le 17e siècle, il en a une connaissance intime, profonde, et il fait, comme dirait un écrivain que j'aime bien, Frédéric Boyer, exploser le passé dans le présent. C'est-à-dire que soudain, le monde baroque, parce qu'en fait c'est un monde, c'est-à-dire que c'est une musique, c'est une théâtralité, c'est une interprétation, il y a eu aussi les mises en scène de Benjamin Lazare, d'Eugène Green, des gens qui n'ont pas fait simplement acte d'archéologie, une sorte de reconstitution, c'est pas le puits du fou. Ils ont vraiment profondément, presque ressuscité, presque de manière religieuse et à la fois spirituelle, je dirais plutôt, ce répertoire, parce que ils l'ont envisagé dans toutes ses dimensions musicales, théâtrales, festives aussi. C'était un théâtre qui disait le pouvoir, qui disait la grandeur, donc qui demande d'énormes moyens, en fait. Et Christie, l'association Christie Vélégier a fait donc ce grand miracle d'Attis. Et on a eu l'impression, vous savez, je pense toujours à Fellini, cette scène de Fellini-Roma, où ils entrent dans une sorte de grotte et ils redécouvrent un instant la vie même de l'art de siècles antérieurs, et puis tout semble se dissiper. Et eux, ils ont réussi à maintenir quelque chose, à recréer quelque chose. Et notamment, par exemple, quand j'ai découvert moi, ce sommeil d'Attis, j'ai pas entendu chose plus suave, plus profonde, plus aérienne et en même temps plus ample, qui indique qui donne au mot majesté, par exemple, pas simplement une sorte de grandeur d'apparat, quelque chose de compassé qui nous vient un peu des manuels d'histoire, mais un sens profond à ce mot-là.
On se réfère là à la mise en scène de 1987 de Jean-Marie Vélégier. Deux ans auparavant, Leonard Bernstein enregistrait ceci.
Hey you!
Who, me?
Yeah, you.
Why, it is Officer Krupke, Baby John.
Well, top of the evening, Officer Krupke.
I'll crack the top of your skulls if you punks don't stop when I whistle.
You see, cops believe everything they read in the papers.
To them, we ain't human. We're cruddy juvenile delinquents. So that's what we give them.
Hey, you.
Me?
Officer Krupke?
Yeah, you. Give me one good reason for not dragging you down the station house, you punk.
Dear kindly Sergeant Krupke, you gotta understand, it's just a bringing up key that gets us out of hand. Our mother's all our junkies, our father's all our drunks. Golly Moses, naturally we're punks.
Chief Officer Krupke, we're very upset. We never had to love that every child ought to get. We ain't no delinquents, we're misunderstood.
That's a touching good story.
Let me tell it to the world.
Just tell it to the judge.
Dear kindly judge, your honor, my parents treat me rough with all their marijuana. Won't give me a puff. They didn't want to have me, but somehow I was had. Leaping lasers, that's why I'm so bad.
Right, Officer Krupke, you're really a square. This boy don't need a judge, he needs an analyst care. It's just his neurosis that ought to be coined. He's psychologically destroyed.
I'm destroyed.
We're destroyed. We're the most destroyed. Like we're psychologically destroyed.
In the opinion of this court, this child is depraved on account he ain't had a normal home.
Hey, I'm depraved on account I'm depraved.
So take him to a head shrinker.
My father is a bastard. My ma's an SOB. My grandpa's always blasted. My grandma pushes tea. My sister wears a mustache. My brother wears a dress. Goodness gracious, that's why I'm a mess.
Yes, Officer Krupke, you're really a slob. This boy don't need a doctor just to put on his job. Society's played him a terrible trick. Sociologically, he's sick.
I am sick.
We are sick. We are sick, sick, sick. Like we're sociologically sick.
In my opinion, this child don't need to have his head shrunk at all. Juvenile delinquency is purely a social disease.
Hey, I got a social disease.
So, take him to a social worker.
Yeah, kind of social worker. They say to win a buck, like be a soda joiker, which means like be a schmuck. It's not I'm anti-social, I'm only anti-woike. Glorioski, that's why I'm a joik.
Hey, Officer Krupke, you've got it again. This boy don't need a job, he needs a gear in the pen. It just a question of misunderstood. Deep down inside him, he's no good.
I'm no good.
We're no good. No one thinks good. Like the best of us is no damn good.
The trouble is he's crazy.
The trouble is he drinks.
The trouble is he's lazy.
The trouble is he stinks.
The trouble is he's growing.
The trouble is he's gross.
Krupke, we got troubles of our own. The officer Krupke went down on our knees. 'Cause no one wants a fellow with a social disease. The officer Krupke.
Officer Krupke, tiré de West Side Story, c'est la version de Leonard Bernstein en 1985.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Le comédien, metteur en scène, Denis Podalydès est l'invité de Musique et moi ce matin. Quand je vous ai annoncé la date de 1985 pour ce West Side Story, bon, j'ai un peu triché, c'était pour le rapprocher de d'Attis qu'on avait entendu un peu plus tôt. Le film, lui, date de 1961 et c'est l'enregistrement de Bernstein qui est un peu plus tardif. Quand vous m'avez dit que ce film avait compté pour vous dans vos découvertes musicales, je me suis dit que cet Officer Krupke vous avait fasciné, ces voyous vous parlaient. J'ai tort ?
Oui, en fait, c'est vraiment un disque que j'ai entendu dans la petite enfance. Je l'entendais tous les dimanches, mes parents le mettaient et parfois ils dansaient sur West Side Story. Je pense que cette œuvre, le film, avait compté énormément dans leur histoire, dans leur amour et quand je les voyais danser, ça me faisait rêver. Je me disais, je viens de l'union de ces deux personnes. Enfin, j'étais très petit, mais je pense que je le verbalisais pas, ni mon frère. Mais la gaieté familiale, par exemple, la bonne entente, l'amour, tout simplement, de sentir ses parents amoureux, ça passait à travers cette musique. Je sais, par exemple, ma mère se pâmait, aimait beaucoup chanter « Maria, Maria, Maria », et mon père reprenait. C'était pourtant pas du tout des gens qui chantaient tous les jours.
Ils venaient de deux milieux différents.
Ils se laissaient prendre.
Comme Maria Tony.
Un peu, tout à fait. Oui, oui, oui. Mon père arrivait d'Algérie, il s'était rencontré à Nice. Donc, tous les deux déplacés de leur lieu de naissance. Mon père Alger, ma mère Versailles. Ma mère était en stage d'anglais. S'apprêtait à devenir professeur d'anglais. Enfin, elle était étudiante encore et lui était étudiant en pharmacie. Donc, normalement, ils auraient pas dû se rencontrer là. Ma mère venait d'une bourgeoisie catholique versaillaise, plutôt de bonne convenance bourgeoise, et mon père de petit fonctionnaire plus désargenté, surtout après quand ils sont rentrés d'Algérie, ils étaient carrément ruinés, et donc c'était un peu deux mondes, effectivement. Mes frères et moi sommes les enfants de deux mondes assez différents, et effectivement sans doute ça joue ce goût de West Side Story, de les voir communier dans cette œuvre-là.
Ouais. Comment est-ce que vous entendez l'ensemble qu'on vient d'entendre là à l'instant, la rythmique, les intonations des voyous dans Fessor Kropke.
Je trouve ça magnifique, quelque chose de très théâtral. Ouais. J'écoute ça comme une sorte de poème théâtral.
Vous aimiez faire des montages sonores,
oui, avec
des
frère.
Voix avec votre frère.
Ah oui, oui,
est-ce que ce type de rythmique, peut-être ce rapport au corps aussi, de comédie musicale, vous a inspiré?
Sûrement. Ça nous a inspiré très, très inconsciemment. Parce que quand je réentends, j'ai un sentiment d'extrême familiarité. Alors que, notamment ce passage-là, je pense que ça fait bien 20 ans que je n'ai pas entendu ça. Mais j'ai une extrême familiarité et je pense le mouvement des je pense beaucoup aux films, hein. C'est Robert Wise, je crois, le réalisateur, leur façon de se déplacer, la théâtralité, parce que c'est quand ils sont sur les toits, évidemment, c'est du décor, mais comme j'aime profondément les décors théâtraux parfois au cinéma, c'est même plus les décors sont théâtraux et faussement réalistes et plus c'est au cinéma que je les aime, alors qu'au théâtre j'aime plutôt autre chose. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question.
Je vous pose la question sur la rythmique. Moi, ce qui me frappe, c'est la
rythmique. Oui, parce qu'il y a aussi quelque chose qui me touche dans le fait. Je sens une ancienne manière de dire et de dire le texte, de le jouer. C'est comme quand j'entends des acteurs français des années 50, 60 et même maintenant 70. J'entends une époque. Je sais que ça n'est plus possible. Aujourd'hui, c'est autrement, autre chose, parce que les gens s'expriment différemment, donnent des intonations différentes. C'est assez mystérieux, d'ailleurs, comment les intonations évoluent avec le temps. Et puis, les moyens d'enregistrer sont différents, sont tout autres. Donc, les voix, naturellement, changent. Donc, j'ai aussi une époque. Mais ce que j'aime, c'est la confrontation entre l'écoute de ces voix-là et ce que je sais aujourd'hui. Comment je l'imaginerais aujourd'hui. C'est jamais une sorte d'écoute nostalgique, mais c'est une écoute différentielle. Enfin, je l'injecte immédiatement dans le contemporain. Et je me nourris de ça.
Versare la tua
parler des voix de votre enfance, de comment elles sonnent. Denis Podalydès, c'est ici Ruggero Raimondi et Teresa Bergonza, aux côtés de l'Orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par Laurine Mazel. C'est donc le film de Joseph Losey qui vous a initié à l'opéra?
Ah oui, vraiment. Ma grand-mère nous a emmenés, je crois, mon frère et moi, ou étais-je seul, je ne sais plus, voir ce film. Ça a été un choc esthétique. C'était d'une très très grande beauté et évidemment la découverte de l'opéra. Elle m'avait offert quelques temps avant le coffret d'ailleurs. Notamment ce duo de Don Giovanni et Zerlina a été le premier air où j'ai accroché un désir de musique, où je me suis attaché. Au début, j'écoutais ça de manière très un peu scolaire, intimidée, sans trop décoller, sans trop m'y attacher, éprouvant c'est parfois d'ailleurs c'est un très beau sentiment quand on éprouve la beauté sans la recevoir tout à fait. On sent qu'il y a c'est comme un orage qui arrive, on sent qu'on en est bouleversé, que quelque chose va changer, mais on est encore trop intimidé et trop ignorant sans doute pour recevoir et goûter la chose. Et le film m'a permis de m'immerger dans la splendeur de ses voix. L'opéra n'était pas tellement... mes parents n'en écoutaient pas. Pratiquement pas. West Side Story, vous voyez, c'est un peu dans l'art lyrique, c'est un petit peu le maximum de ce qu'on écoutait. Ils écoutaient des chanteurs du temps, John Baez par exemple, ou Brassens en France. Donc l'opéra était quand même quelque chose d'un peu étranger, presque exotique. J'avais pas les... Et c'est avec ce... En le réécoutant ensuite, d'abord la beauté du film, la classe de Ruggero Raimondi, l'association de l'art lyrique et du jeu théâtral dans ces décors splendides. Donc il y avait un accès à la beauté. Il y a un autre film comme ça après que j'ai vu avec fascination, toujours emmené par ma grand-mère, qui a été la Flûte enchantée. Quelques temps plus tard, le mari de ma tante, Régis, m'a emmené voir Fausse de Gounod. Ça a été le premier contact, alors là, scénique.
Et est-ce que vous parvenez à écouter, peut-être aujourd'hui, des opéras dans leur version uniquement audio, en disque, sans mise en scène?
Oui, alors je le fais généralement pour découvrir un opéra. Et quand on m'en propose un, je commence par ça. Avant de regarder des DVD. Mais quand même, j'associe tellement la réalisation scénique, surtout qu'aujourd'hui, bon, c'est surtout à des fins professionnelles que j'écoute des opéras dans toute leur longueur. Quoi. Mais à partir du moment où il y a eu Don Giovanni, puis Mozart, puis après ça a pris un temps fou, Fausse de Gounod, mais je savais pas si j'aimais ça. C'était ça d'ailleurs, je ne savais pas si j'aimais ou si j'aimais pas. J'étais incapable, je restais très longtemps en arrêt. Et c'est à partir, donc c'est des années plus tard quand on m'a... Non, il y a eu une période où j'ai décidé presque de manière volontaire d'écouter des opéras. Alors j'écoutais des différentes époques, mais presque comme je potassais des livres, donc je potassais des opéras. Je retenais pas forcément des émotions intenses, mais je lisais le livret, j'écoutais, je projetais des choses dans mon esprit... Mais c'est à partir du moment où on m'a proposé de monter des opéras que là, mon écoute d'abord a grandi, s'est stabilisée, et puis j'ai commencé vraiment à aimer de plus en plus, passionnellement.
Et je me souviens d'une Clémence de Titus, de Mozart, au Théâtre des Champs-Élysées.
Thank you.
L'ouverture de la Clémence de Titus par l'orchestre baroque de Fribourg, dirigé par René Jacobs. Et ce dont je me souviens dans votre Clémence de Titus, Denis Podalydès, au Théâtre des Champs-Élysées, c'est que vous aviez introduit du burlesque dans le jeu de scène des chanteurs. Et c'était la première fois, enfin, pour ma part, que je ressentais autant de rythme, une pulsation théâtrale dans une Clémence de Titus.
Ah ben ça me fait plaisir, tout simplement, parce que c'est pas gagné, j'allais dire, cette affaire. C'est quand on lit le livret, c'est une œuvre qui fait un peu peur à un metteur en scène. J'avais vu des Clémences qui me semblaient très statiques, très énormes, très pleines d'amplitude. J'en avais vu une magnifique par Ivo Vanhove, très très belle, très méditative. Et une chose qui m'avait guidé, c'était le personnage de Titus, sa méditation constante, le mystère de ce personnage, comme ça. Et c'est pour ça que j'avais mis au tout début quelques notes, quelques vers de Bérénice, avant même l'ouverture. C'est le Titus qui apparaît est un homme qui a renoncé à un amour. Il y a plein de thèses sur Titus, en fait, on dit c'est un homosexuel, et je sais plus, quelqu'un m'avait dit ça, il faut que tu saches, Titus, il est homosexuel, il faut que tu ailles à fond, et c'est pas que, d'ailleurs je n'excluais évidemment pas cette hypothèse, j'en savais rien, moi, de la sexualité de Titus, mais par contre j'avais Bérénice de Racine en tête. Idée qui m'avait été suggérée d'ailleurs par Louis Langrée, qui m'avait dit qu'un metteur en scène, je crois, Pierre Strosser, l'avait monté comme ça aussi, précédé de la Bérénice de Racine. L'immense difficulté, suite sans doute à, bon, je faisais cette hypothèse, suite à cet amour perdu, d'incarner le pouvoir pour Titus et d'agir en tant que chef, c'est-à-dire. Un des signes du pouvoir, c'est sévir dès qu'il y a menace, sédition. Et ce rapport avec Sexto, avec Sextus, Sexto. Oui, il y avait le personnage de Vitellia, et puis j'avais des chanteurs qui étaient quand même très forts du point de vue du jeu. Et donc, qui étaient très, très avide de jeu. Il avait transposé ça un peu dans un hôtel, dans un grand hôtel, quand un État est chassé de ses bases, comme par exemple le gouvernement français à Bordeaux en 40, c'était un petit peu à quoi je pensais. Eh bien, tous les ministres sont tous dans un hôtel et tout le monde est en déshérence, tout le monde est un peu perdu. Et ce qui m'intéressait, c'est ça, c'est la vacation du pouvoir, la faiblesse du pouvoir et comment, par l'acte de clémence, quelqu'un, en fait, en consentant à la faiblesse, fait acte d'autorité, d'une autorité pour moi supérieure, parce que c'est pas celle des armes, c'est pas celle de l'exhibition de la force à la Trump, vous voyez, pour moi c'est vraiment l'opposé même, mais au contraire par ce geste de la clémence. C'est pour ça que je trouve que cette œuvre, et évidemment tout ça entraîne des choses drôlatiques. Quand un État est à la dérive et qu'on a un chef d'État perdu dans ses pensées. Parce que c'est ça, Titus. La plupart du temps, il est perdu dans ses pensées.
En parlant de Mozart, quelles sont les références pour vous de mise en scène? On parlait de Joseph Losey un peu plus tôt. Est-ce que vous aviez, par exemple, vu la mise en scène des Noces de Figaro par Strehler?
Alors, je l'ai vu en captation, j'ai vu en DVD. Alors, évidemment, comme Strehler est quasiment un dieu théâtral et des principes même fondateurs de mon goût du théâtre, d'une certaine façon même de jouer, etc. Donc, c'est presque mon goût vient de là aussi. Et quand j'ai vu cette captation des Noces de Figaro, c'est l'émerveillement pur. Voilà, c'est l'intelligence. Il y a à la fois une intelligence historique. Je suis très admiratif des grands metteurs en scène, des metteurs en scène qui ont l'intelligence historique aussi des textes, qui savent les situer, même quand ils transposent d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui savent très bien transposer dans l'époque actuelle, mais compte tenu de tout un ensemble de données qu'ils arrivent aussi à transposer, le contexte social, politique, etc. L'esthétique pure de l'italianité de Strehler, enfin je pourrais continuer très longtemps là-dessus. Hein.
Mais je crois que...
En plus c'est cette pièce aussi de film, bien sûr.
Mais je crois que votre première mise en scène d'opéra, si je ne me trompe pas, c'est Fortunio,
oui.
De Messager à l'Opéra Comique.
Si vous croyez que je vais dire... Je ne serai pour un empire vous et pas nommé. Nous allons chanter à la ronde si vous voulez. Que je l'adore et qu'elle est blonde. Je fais ce que sa fantaisie veut m'ordonner, et je puis, s'il n'y faut ma vie, la vie donner. D'une balle qu'une amour
voici donc dans le cœur du métier d'opéra, le chant, ici le chant de Cyril Dubois, dans l'air de Fortunio de Messager. En tant que comédien, Denis Podalydès, comment est-ce que vous avez travaillé la projection de la voix? Est-ce que vous comprenez comment est-ce qu'un chanteur comme Cyril Dubois peut projeter, lui, sa voix?
C'est toujours un peu mystérieux pour moi. C'est ça qui me fascine chez les chanteurs, cette projection. Et comment? Alors, par exemple, pour un acteur réaliste, par exemple, la voix doit toujours rester intime, le plus intime possible. La projection est une chose presque dangereuse, parfois même profanatrice de l'intimité, de la vérité d'un personnage, de soi-même. Et un chanteur...
Et combien de comédiens s'y cassent la voix aussi?
Se cassent la voix, oui. Et comment un chanteur, au contraire, va trouver son intimité en envoyant cette voix vers le plus haut vers le ciel. C'est toujours mystérieux. Ça, je ne me l'explique pas. Je conserve ce mystère. Je ne cherche pas à savoir comment il fait. Je ne sais pas par où ça passe. Au début, c'est drôle parce que Fortunio, ça a été mon premier et c'est mon dernier opéra. Et avec distributions différentes et le même chef. Et 10 ans qui séparent les deux Fortunio.
2009 pour le premier et 2019 pour le dernier.
Et expérience merveilleuse de pouvoir faire ça. Son premier et son dernier.
Pouvoir y revenir.
De
se remettre à la table.
Oui, de reprendre ce chantier-là, finalement où il était resté, parce que dans le premier, ça a été un grand bonheur, mais sans doute moi, j'étais aussi très intimidé par la mise en scène d'opéra, et donc, je considérais les chanteurs trop comme des chanteurs, et pas assez comme des acteurs, des chanteurs à qui je devais indiquer des choses du jeu théâtral, mais dès que je sentais que ils avaient un léger doute sur ce que je pouvais dire, ou une certaine, je m'arrêtais en chemin. J'essayais pas de convaincre, j'essayais pas d'entrer dans un dialogue plus nourri, plus, et je leur faisais pas assez confiance, et je ne me faisais pas assez confiance.
Alors comment on fait pour introduire du jeu justement dans le chant?
En les considérant, mais comme des acteurs, en leur parlant exactement comme à des acteurs, sans me dire ah oui non mince, il faudra pas que tu sois de dos à ce moment-là. Tout ça. Après, les chanteurs savent très bien en fait. Ils savent, ils connaissent souvent les chanteurs beaucoup mieux que des acteurs. Ils connaissent leur partition au premier jour de répétition. Ils la connaissent par cœur déjà. Donc ils ont une avance énorme que n'ont souvent pas les acteurs au théâtre. Il y en a qui savent leur rôle dès le début, mais pas comme un chanteur possède sa maîtrise déjà sa partition. Et donc, c'est d'entrer. J'ai remarqué que le dialogue théâtral, de parler à un chanteur comme à un acteur, en fait, c'est exactement ce qu'il fallait. Et c'est une comédie lyrique aussi. C'est le livret qui vous parle, c'est la musique qui parle. Et là, il y a l'autre aussi compagnon de cette aventure, qui est Louis Langrée. Qui est devenu un ami, qui m'a tout appris. Il m'a vraiment tout appris sur le premier Fortunio et au deuxième Fortunio. On a complètement collaboré, c'est-à-dire que lui m'a suggéré quantité de choses sur la mise en scène. Nous avons parlé théâtre ensemble et moi j'ai parlé aussi musique avec lui. Et il y a des remarques profondes qu'il m'a faites, qui m'ont fait tout changer. Et les chanteurs ont parfaitement senti aussi qu'on était en symbiose totale. Non seulement sur l'œuvre musicale, mais sur l'œuvre, la comédie lyrique qu'est Fortunio.
Approchez, approchez.
Autre mise en scène, Denis Podalydès, que vous avez signé cette fois d'une œuvre qui repose sur des ressorts comiques, le Contori de Rossini. On parlait un peu plus tôt de la Clémence de Titus et du jeu burlesque que vous avez réussi à introduire. Là, c'est plus facile dans le Contori. Comment pousser des chanteurs d'opéra à faire rire? On entendait la salle, là, ici, à l'instant, avec Julie Fuchs dans La Comtesse Adèle, Philippe Talbot dans le Contori.
Alors là, il faut vraiment rendre grâce au génie de Philippe Talbot et de Julie Fuchs. Ils sont très drôles. Ils étaient très drôles scéniquement, ils étaient très drôles vocalement. Il y a des choses que fait Philippe, là, qui... c'est pour moi un délice là, de réécouter ça, surtout la crise sanitaire, etc. Il y a tellement de vie là-dedans, tellement d'humour. Alors ça c'est eux. Et puis on s'est tellement bien entendu avec Louis, avec Julie, Philippe, tous les autres. Et Gaël Arquez, c'était absolument merveilleux. Donc, quand on a des chanteurs comme ça, qui vous suivent tout, et ils me faisaient une confiance énorme, et moi aussi j'avais confiance en eux, donc il y a des fantaisies qui leur sont venues. Eux-mêmes, je me souviens, à un moment, on a hésité avec Philippe, il arrivait en répétition avec, vous savez, c'est un gyropode. Et on avait, vous voyez ce que c'est un gyropode?
Non.
Vous savez, c'est ces roues. On monte dessus. Et puis ça avance. Vous avez pas. On en voit dans la rue.
Oui, d'accord.
Les gens sont debout sur une seule roue.
Je savais pas que ça s'appelait un gyropode.
Ça s'appelle un gyropode. Et lui, il arrivait en gyropode. Et on a essayé comme ça de faire son entrée. Donc il a toute cette entrée de cette scène-là. On l'a essayé en gyropode. Bon, on l'a pas gardé parce que ça posait trop de problèmes en fait. Et puis ça faisait un. Au bout d'un moment, ça faisait un peu effet, quoi.
Ouais.
Mais on l'a essayé. Et on essayait des choses qu'on se serait peut-être pas permis si on ne s'était pas autant fait confiance mutuellement. Voilà.
Thank you. toutes osées sans crainte d'ici prouver.
Formidable Julie Fuchs et Philippe Talbot dans le Contori de Rossini. C'était à l'Opéra Comique en 2018. Ça a été diffusé sur France Musique et vous pouvez retrouver en ligne l'intégralité de cet opéra.
France Musique, Priscille Lafitte, Musique et moi.
Denis Podalydès est l'invité de Musique et moi ce matin. Vous aviez mis en scène ce Contori de Rossini. Je me demande comment est-ce que vous vous accommodez de la musique d'un opéra. C'est une contrainte très forte pour un metteur en scène. Il y a des temps instrumentaux incompressibles. La prosodie est inscrite dans la partition. Comment est-ce que vous vous composez avec ces paramètres-là? Où est-ce que vous trouvez votre marge de liberté de création?
Oui, en fait, on la trouve toujours. Plus la contrainte souvent est forte, plus ça vous oblige à déployer votre imagination et c'est un jeu aussi. Moi, je le prends vraiment, ces contraintes-là, le temps musical, comme un jeu. C'est souvent au théâtre, on n'a pas de partition. Et donc, le rythme d'une scène peut être traité de quantité de façons. Une scène peut durer 10 minutes chez un metteur en scène et 5 minutes chez un autre. À l'opéra, non, on sait qu'on a ce temps-là et qu'on a ces contraintes-là à tel moment. Donc, un temps musical non chanté, par exemple, je sais, je vais pouvoir l'occuper avec du jeu. Et j'aime énormément, parce que tout metteur en scène d'opéra aime ça, la friction entre ce qu'on entend, ce qu'on voit. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a un moment très romantique dans la musique, je suis complètement au hasard, un acte complètement incongru qui viendrait contraster avec ce que la musique suggère ou pas du tout. Ou alors il y a une remarque que m'avait faite comme ça Louis Langrée sur la fin de Fortunio. J'avais prévu toute une action scénique pour la chanteuse, qu'elle allait au prix de Dieu, et puis il m'avait dit mais non, mais là tu vois, regarde, si on fait ça, est-ce que tu entends toujours la clarinette là qui sort? J'ai écouté, j'ai dit, ah ben non, c'est vrai, je l'entendais pas. Et il me dit, cette clarinette-là, elle dit tout. Et donc, je demandais à la chanteuse de ne rien faire du tout, au contraire, de se laisser complètement traverser. Et cette petite clarinette est entrée dans l'action scénique, en fait. Et ça a été une grande leçon pour moi, cette fin de Fortunio. Donc voilà, il faut aussi ne pas charger, pas se dire, alors là, les acteurs ne chantent pas, à moi de jouer. C'est des méditations sans fin, des moments de rêverie aussi, et je regarde les chanteurs, je sais pas, ça met la recherche sur plusieurs plans. C'est ça que j'adore. Et en fait, je me rends compte que j'aime tellement ça que au théâtre, j'ai tendance à, quand je répète, quand je réfléchis à l'univers d'une mise en scène ou au style d'une mise en scène future, j'écoute énormément de musique et parfois je les injecte après dans le... J'ai fait une mise en scène de Lucrèce Borgia qui est complètement teintée d'un désir d'opéra. C'est comme si il y avait un opéra qui poussait, comme ça je sais qu'il y a un opéra qui existe, mais qui poussait les acteurs. Je poussais les acteurs vers des zones qu'occupent naturellement des chanteurs d'opéra.
Ouais. Et je vous vois vivre d'ailleurs quand on écoute ces musiques ensemble.
Ah oui, vous animez. Non, puis en plus, là, c'est des souvenirs, c'est prodigieux, c'est des souvenirs aussi très, très intenses, de très grands plaisirs. En fait, la mise en scène d'opéra me donne un... D'ailleurs, Jean-François Sivadier, qui a fait de magnifiques mises en scène d'opéra, m'avait dit, tu vas voir, tu ne voudras faire plus que ça. Je vais pas, à un moment de ma première mise en scène d'opéra. Il m'a dit, c'est un plaisir, mais dingue, tu vas voir, c'est... On est pris, quoi, et c'est vrai.
Et je crois que dans vos cartons, dans vos projets, il y a un Falstaff.
Mais oui.
De Verdi.
Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio. Tanto ero smilzo, flessibile, svello, e sarei guizzato attraverso un anello. Quando ero paggio, ero sottile, ero sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile.
Voi mi cagliate, io tengo i vostri intenti.
C'est donc la prochaine œuvre que vous allez mettre en scène, Falstaff, qui est remis à...
Opéra de Lille, mai 2023.
Oh, on voilà. L'attend de pied ferme. Et vous avez demandé d'écouter spécifiquement cet air très court de Falstaff au deuxième acte, ici interprété par Renato Brusone. C'est précisément cet air très court, brillant, que vous vouliez entendre pour la gourmandise des mots,
oui,
qui est contenu dans
cette...
Il a
quelque chose d'infiniment léger et très émouvant, parce qu'il évoque, Falstaff évoque dans ce petit passage... sa jeunesse, quand il était le page du duc de Norfolk et qu'il était tout mince, tout léger. Ce qui est très, dans ce petit moment délicieux, très, qui a aussi de l'humour, il y a beaucoup de nostalgie. Et c'est un moment où il vient retrouver Alice Page, c'est son petit rendez-vous amoureux. Et donc, il essaye de faire le joli cœur et il essaye de faire disparaître son embonpoint. Enfin, pour moi, je l'entends comme ça. Et donc, j'ai imaginé, parce que toute cette mise en scène-là, elle est quasiment écrite, puisque nous étions confinés et on avait encore, avec Caroline Sonrier, qui dirige l'Opéra de Lille, l'espoir de rouvrir fin avril et de faire coïncider les dernières représentations prévues avec la première, de faire au moins la première, pour tenter de sauvegarder des représentations à l'automne. Bon, évidemment, il n'en a rien été. Mais donc, moi, j'ai continué pendant le premier mois du confinement à travailler quotidiennement sur la mise en scène de... Ça me tenait debout. Et on faisait des visioconférences avec les collaborateurs du spectacle. D'ailleurs, le décor a été fait. On s'est même retrouvé plus tard à Lille en juillet et on a vu avec Bertrand Couder, avec Eric Ruff, on a vu le décor monter et Bertrand m'a montré des très 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 belles intuitions de lumière. Et moi, j'ai écrit en fait pour me tenir. J'ai écrit donc cette scène-là. Je l'ai écrite comme une page de roman. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera en 2023, mais donc... Et puis, en plus, je communiquais avec Tassos Christoyanis, qui sera Falstaff, par WhatsApp. Il m'a envoyé des chansons. Et donc, on s'était rencontrés, je lui avais présenté mon projet. Et donc, cette scène-là, je voudrais en fait qu'Ali soit toute juchée en haut d'une sorte de praticable, de table... Ça se passe dans un hôpital. Et lui, Falstaff, doit monter, la rejoindre, comme une sorte de montée au balcon, avec son énorme... Parce qu'il sera énorme, je crois que c'est très important, que Falstaff
court un
bon point. Et monte délicatement, et comme un funambule, comme ça, il monte jusqu'à Alice avec une extrême difficulté, en fait. C'est pour ça qu'il chante aussi. C'est pour cacher la difficulté qu'il a. Donc voilà, j'ai imaginé cette scène, et j'avais grand plaisir à ça, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais voilà. Donc j'ai rêvé Falstaff pour l'instant.
Je comprends bien que le goût pour l'opéra est grandissant chez vous, et l'appétit a grandi au fur et à mesure des années. Est-ce que ça influence également votre rapport vous-même à votre jeu, et particulièrement à la voix?
Sûrement.
Ou au rythme?
Il faut que je fasse attention à ça, je pense, parce qu'un acteur ne doit pas surveiller sa voix trop. Je pense que ma voix n'est pas forcément un instrument de musique comme un violoncelle pour un violoncelliste. La voix, c'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux que ça. On la façonne pas, elle se fait, elle se transforme, elle agit. Mais on doit préserver toujours une sorte de part d'inconscience, de, mais je dirais même de part de... La voix doit être envahie de quantité de choses. Il y a tout le corps qui passe dans la voix, avec le temps, et je me rends compte, la voix, le corps, pour moi, c'est tout un, en fait. J'entends le corps d'un acteur dans sa voix, et quand je le vois, je l'entends aussi. C'est tout un pour moi. Je ne sépare absolument pas les deux choses, mais c'est fascinant comme quand j'entends, c'est pour ça que j'aime tant la radio, je vois tout, moi, à la radio. Mais tout le monde, d'ailleurs, en fait. Vous écoutez quelqu'un, vous entendez la plainte, quelquefois, le chant, la tristesse, la gaieté, le deuil, vous entendez tout ça, quelquefois, même dans une phrase d'une banalité totale. Dans une voix chantée, c'est ce qu'on entend, c'est... Donc oui, ça me fascine et je me méfie de trop donner forme à tout ça.
Et une voix que vous vouliez entendre ce matin, c'est celle de Varia Panina.
Коровушка есть, и сидит и парочка. Пожилей душа за снобушка. Молодецкого плеча. Там за ночи подожду, но завижу черноокою все товары разложу. Знала ночка темная, как полотили они. Рот примись, и рот высокая, войну сразу сохрани.
Panina, contralto très connu au début du XXe siècle en Russie. Je crois que Tolstoï et Tchekhov chérissaient cette voix qui chantait des airs tzigan, a été d'origine roumaine, des romances russes. La gourmandise des mots peut se nourrir aussi d'une langue qu'on ne connaît pas. Ou peut-être parlez-vous le russe, Denis Podalides. Quelle saveur associez-vous au chant russe de Varia Panina?
Alors, c'est un souvenir très précis. C'est la mise en scène de Piotr Fomenko de La Forêt. Alexandre Ostrovski, en 2004 à la Comédie Française, avec Michel Vuillermoz, Martine Chevalier, Laurent Stocker, Anne Kessler, qui est un des plus, pour moi, des plus beaux souvenirs de ma vie. Enfin, c'est un spectacle extrêmement important qui m'a achevé ma formation, peut-être. J'ai, au contact de Piotr Fomenko, j'ai réappris tout mon métier. C'est un spectacle que je porte comme une sorte de paradis perdu. Et il y avait Varia Panina, qui était chantée d'ailleurs par Martine Chevalier. Et j'ai gardé cette chanson comme une sorte de sésame qui m'ouvre la porte de ce spectacle. Et puis après, c'est un film avec Arnaud Desplechin qu'on a fait, et où il a repris beaucoup de choses de la mise en scène de Fomenko. Donc ça a réactivé ce souvenir, et ça m'a fait retrouver ce rôle que j'ai tant aimé, jouer avec mon vieux complice Michel Villermoz, avec lequel j'aime tant jouer. Donc voilà, c'est purement affectif, et c'est aussi, pour l'avenir, c'est que je dois monter L'Orage d'Alexandre Ostrovski en 2022 au Bouffe du Nord, et je remettrai la voix de Varia Panina comme un petit signe. Ce sera un spectacle assez musical, il y aura beaucoup de... Il y aura des chansons russes, pas forcément, pas lyriques d'ailleurs, pas de choses lyriques, mais je me sens d'une certaine manière, je nais aussi là, dans le théâtre russe.
J'aimerais qu'on termine cette émission par votre travail actuel avec Aurélien Bory, metteur en scène du texte de Jean-Philippe Toussaint, La disparition du paysage, que vous travaillez en ce moment même au Bouffe du Nord. Vous êtes seul en scène et le fond de la scène se dédouble, se multiplie pour laisser place aux rêveries de votre personnage, un horizon de mer, un mur qui bouche la vue, des lueurs chaudes d'un restaurant à Bruxelles, et puis l'au-delà, un au-delà brumeux. Et déjà dans sa mise en scène d'Orphée et Eurydice de Gluck à l'Opéra Comique, Aurélien Bory avait dédoublé son fond de scène et représenté au-delà, l'au-delà. C'est un magicien de la mise en scène qui vous inspire, vous, Aurélien Bory ? Vous retrouvez cette fois dans le métier de comédien avec lui ?
Oui, je souhaitais profondément cette collaboration. C'est Jean-Philippe Toussaint qui m'avait adressé ce texte. J'en avais parlé au Bouffe du Nord, pas à la Comédie Française, parce qu'à la Comédie Française, un seul en scène ne pouvait pas réclamer l'investissement que semblait pour moi de demander ce texte. Donc j'ai demandé à Olivier Mantei, Olivier Poubelle, s'ils étaient d'accord pour accueillir une création. Et puis j'aurais parlé assez vite d'Aurélien Bory. Et Aurélien, par chance, a été séduit par le texte. Et nous nous sommes rencontrés à tous les sens du terme et avons très vite collaboré. Moi, je suis fasciné par les espaces que crée Aurélien. Et je sentais que ce texte avait besoin d'un espace inédit, de quelque chose auquel moi, j'aurais jamais pu penser tout seul. Il fallait aller au-delà de la pure, de la beauté littéraire du texte et lui donner comme un champ théâtral, un champ visuel, opératoire, changeant, et je devais m'abandonner à ça, aux métamorphoses d'un espace. Et je me disais, je peux pas être seul porteur en fait de la matière de ce texte. Il faut que ça résonne par rapport à quelque chose que verra un espace dans lequel le spectacle va aussi traverser. C'est une expérience, ce texte. C'est en fait une expérience à la fois très légère, parce que je sens pas de lourdeur dans le texte, mais une expérience de la mort, tout simplement. Une hallucination de la mort.
Je vous propose qu'on passe par une réminiscence de cet Orphée Eurydice de Gluck, qui était donc la mise en scène précédente à l'Opéra Comique d'Aurélien Bory, par la Danse des Furies, par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon.
Thank you.
Nous avons arpenté ensemble, Denis Podalydès, votre travail de l'opéra, ses coulisses, ses contraintes. Et d'avoir discuté ensemble, ça nourrit chez moi, sûrement chez l'auditeur, l'envie grandissante de retourner, vivre cette magie du spectacle. Elle vous manque à vous, Denis Podalydès, vous qui répétez en ce moment ce spectacle avec Aurélien Bory, sans la certitude de jouer dans l'immédiat du moins?
Ah, j'arrive pas du tout à croire qu'on va jouer dans l'immédiat. Non, j'ai essayé de, pour tenir tout simplement, de pas avoir d'attente à court terme, de garder la pratique, de m'entraîner. En fait, ces répétitions aussi me servent à m'entraîner, mais ça me manque, oui, affreusement, douloureusement, et pour je suis tellement pas le seul. Et encore, j'ai de la chance, je peux répéter, parce que moi j'adore répéter. Répéter, ça fait partie des plus grands plaisirs, presque autant que celui de jouer en représentation, dont tant que je cherche dans une salle de répétition, en fait j'oublie qu'il y a personne dans la salle, je fais mon métier, je le pratique, et j'ai cette chance-là. Donc, mais j'essaie de ne pas... J'ai l'impression que ça durera toujours plus longtemps. Si on nous avait dit, d'ailleurs, en mars, quand on a fermé, qu'en janvier 2021, on n'aurait pas encore rouvert les salles, je pense qu'on se serait effondré. Donc, on arrive quand même avec... je ne sais quel esprit, comme ça, quel optimisme, à tenir. Et d'ailleurs, ça va rouvrir. Ça va rouvrir. Et je ne doute pas que les gens reviennent. Il y a beaucoup de gens qui avaient très peur que, à la réouverture, finalement, on ait perdu l'envie, le goût, l'idée même d'aller au théâtre. Je pense pas. Je crois qu'il va y avoir un effet comme une libération, comme la libération de Paris en été 44. Quelque chose qui va être profondément joyeux, festif. C'est comme la démocratie quand elle est mise à mal. Regardez avec les images de cette nuit, les images du Capitole envahi. Finalement, Trump va finir comme finissent les dictateurs déchus, seul comme un chien, peut-être même abattu par un de ses sbires qui se sentira trop déçu et trop trompé. J'ai l'impression, je vois un petit peu on superpose comme ça ce coronavirus à une sorte de dictature qui nous est imposée. Mais voilà, il faut se vacciner. On va terminer l'émission avec ça.
Merci beaucoup, Denis Podalydès, nous avoir redonné le virus de l'opéra ce matin. Merci à Philippe Thibault, la technique. Merci. Lionel Quentin, la réalisation. Attaché de production, Marie Ferdinand. Passe une très belle journée sur France Musique. À la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.